D'abord, j'aimerais qu'on aille faire un tour du côté de la porte de la Villette, aux portes de Paris. C'est là qu'ont été déplacés les toxicomanes qui étaient du côté du jardin d'Éole. En 48 heures à peine, il y a déjà des dégradations, il y a déjà des agressions contre les habitants, avec beaucoup, encore une fois, de violence, notamment contre notre équipe. On va rejoindre sur place Régine Delfour et Léo Mihancourt.
Oui, Laurent, c'est une situation qui devient de plus en plus dangereuse pour tous ceux qui sont obligés de passer par le square. Beaucoup sont obligés de le faire pour aller prendre le métro qui se trouve à quelques mètres. Comme samedi soir, une caissière de 30 ans qui termine sa journée et qui prend le chemin du métro. Elle rencontre un consommateur de crack qui tente de lui voler son argent et la frappe. Elle est très choquée, elle a eu très peur. Une peur que partagent les riverains des communes d'Aubervilliers et de Pantin. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Léo Mihancourt.
C'est beaucoup d'agressions, nous laissons pas nos enfants sortir de la maison pour avoir peur qu'ils se fassent agresser, qu'ils prennent leur téléphone ou ne serait-ce les moindres monnaies qu'ils ont sur eux. Oui, nous avons peur tous les jours.
J'ai mes enfants, j'ai mes quatre enfants. Heureusement qu'ils ne vont pas à l'école à Aubervilliers, mais quand même, mes enfants, ils traversent pour aller quand même au parc de la Villette. Pour aller au parc de la Villette, ils vont traverser le parc où l'installation des toxicos. Là, j'ai peur pour mes enfants et puis les enfants des riverains aussi.
Des riverains qui ne comptent pas laisser perdurer cette situation. Ils se sont rassemblés au sein d'un collectif et organisent un rassemblement mercredi soir.
Merci beaucoup Régine Delfour, Léo Mihancourt qui a donc été agressé en tournant ce reportage. Commissaire Lebars, la situation est ubuesque, mais pas vraiment drôle en réalité. On a construit un mur de parpaings pour éviter que de Pantin, eh bien, les gens ne puissent passer le pont pour aller jusqu'à Paris. Et finalement, on a juste déplacé le problème. Le préfet de police a juste déplacé, avec le ministre de l'Intérieur, le problème de quelques kilomètres. La situation est intenable à nouveau. On rajoute de la misère à la misère. Comment est-ce possible ?
Alors d'abord, pour éclairer un petit peu le débat, les autorités d'aujourd'hui font ce que faisaient celles d'hier, à savoir déplacer le problème. Moi, j'ai été commissaire dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Ça fait au moins 15-20 ans que ça dure. Ça, c'est le premier point. On déplace une population de toxicomanes très particulière, j'y viendrai après, que sont les gens qui sont accros au crack. Tant que ce problème-là sera abordé sous l'angle pénal ou répressif et pas sur l'angle médical, ça continuera à être le jeu d'essuie-glace et on se passe la balle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la population de gens accros au crack, c'est une population qui est tellement désociabilisée et qui est tellement en accoutumance. Et il y a des responsables qui, de bonne foi, pour ceux qui sont de bonne foi, contribuent à ce phénomène de village, parce que c'est un phénomène de village. Ils vivent en communauté. Les associations qui les nourrissent, ceux qui les soignent, ceux qui sont sans arrêt à leur quotidien, finalement, fidélisent cette population autour alors, de situations ubuesques. La salle de shoot, qui, moi, en tant que policier, est un échec total, parce qu'elle n'a pas du tout produit les résultats espérés. Il y en a toujours autant dehors, et ça crée toujours autant de nuisances. Première situation ubuesque. La deuxième, c'est que cette salle de shoot a été mise en limite de zone de sécurité prioritaire, où vous luttez en priorité contre les stupes, c'est-à-dire que d'une rue à l'autre, la rue de gauche, vous luttez contre les stupes, la rue de droite, c'est la zone de la salle de shoot, faut plus toucher, parce que là, il y a une tolérance. Donc tout ça est totalement raté depuis le début, et il faut tout reprendre.
Et le mur,
le seul sujet d'évolution...
Et ce mur absolument aberrant qu'on construit pour bloquer un tunnel, mais...
Alors
c'est le mur de la honte ?
Écoutez, moi, j'ai demandé, pour le coup, à la préfecture de police de savoir à quoi était destiné ce mur. Si on considère que les gens sont de bonne foi, c'est pour éviter le passage dans un endroit qui n'est pas visible et dans lequel il pourrait y avoir des incendies, des zones de consommation, de passer de l'autre côté pour des questions de sécurité. Mais enfin, de toute façon, on voit bien que c'est du court terme. Il suffit de passer à gauche ou à droite et les gens iront où ils veulent. Puis on a déjà des riverains qui se plaignent. De toute façon, ce qui est incroyable, c'est qu'on continue depuis 20 ans la même chose avec une population qui est aujourd'hui que de 400-500 personnes. Alors, il y a deux aspects, j'essaye de résumer. L'aspect pénal, tant qu'on ne s'en prendra pas correctement aux mots doux, à ceux qui cuisinent le crack,
mots
on n'arrivera pas.
C'est ceux qui fabriquent
le crack.
C'est le
nom communément donné aux gens qui font de la cuisine à crack. Parlons clairement, c'est 90% d'entre eux qui sont sénégalais d'origine. Okay. Ils mentent sur leur identité, ils ont des fausses identités. Ils ne sont pas issus d'un pays qui est un pays où on ne peut pas expulser, puisque ce n'est pas un pays en guerre. Donc ces gens-là, déjà, on devrait faire un effort sur le plan pénal. Ça, c'est le volet où on a notre part de responsabilité pour faire des procédures correctes. Prison, expulsion, ça paraîtrait la moindre des choses. Okay. Pour la population de craqueux, c'est le terme un peu péjoratif, je suis désolé de dire que s'il n'y a pas un jour une prise de conscience avec certains textes qui existent, hein, il faut les adapter, de prise en charge forcée, c'est-à-dire de l'hospitalisation d'office pour les craqueux. Il ne faut plus les mettre ensemble, c'est-à-dire qu'il faut les séparer pour éviter ce phénomène de village. Il faut envisager de l'hospitalisation d'office, quitte à modifier un peu les textes. Alors il y a des possibilités aujourd'hui sur la psychiatrie. Il faut ensuite que cette prise en charge médicale forcée aboutisse à une désintoxication et que la prise en charge sociale soit ventilée. Mais si on les laisse grouper, on continuera à avoir ce phénomène de village permanent et qu'on le mette à gauche, à droite, dans la rue du haut, dans la rue du bas, ça continuera.
Julien Drey, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le commissaire Lemars ?
Je suis d'accord avec ce que dit le commissaire, mais ce n'est pas le mur de la honte, c'est le mur de l'incompétence. Parce que cette affaire, ça dure depuis un certain nombre de temps. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas exactement dans le même schéma que la lutte contre le trafic de stupéfiants en général, héros, coques ou tout ce que vous voulez. Là, on sait que c'est un public très particulier, parce que la consommation de cette drogue, elle est destructrice. Et même, c'est un certificat vers la mort. Dès qu'on commence à rentrer là-dedans, en général, ça finit très mal. Donc, il y a un moment donné où l'État doit prendre ses responsabilités, en accord avec la mairie, en accord avec tout le monde. Moi, si vous voulez, j'y comprends plus rien. D'ailleurs, je ne cherche plus à comprendre. Ce que je sais, c'est qu'il devrait y avoir à un moment donné quelqu'un qui dise, et normalement, ça relève des compétences du président de la République et du ministre de l'Intérieur, on en finit avec tout ça. On prend les gens à un moment donné dans un centre, on trie. Ceux qui doivent être soignés, on les met dans un centre spécialisé. Ceux qui doivent être expulsés, on les expulse sans attendre. Parce que là, on est dans du délit. Et ce qui est incroyable, et je pense, si vous voulez, tous les débats qu'on a en ce moment sur le fait que nos concitoyens, ils commencent à regarder la politique en disant à quoi ça sert, là, on a
l'exemple schéma parfait.
Parfait, quoi, je veux dire. Absolument. Et je fais remarquer que ce sont des populations souvent les plus en difficulté qui subissent cela. Vous avez vu les gens qui parlaient, c'est eux qui prennent tous les risques, et c'est insupportable. Je comprends pas. Si vous voulez, le truc pour moi le plus révoltant, c'est que je comprends pas. Je veux le dire brutalement, je serai à la place du chef de l'État, et je convoquerai le ministre de l'Intérieur, je dirais voilà, il y a une semaine, il faut me régler ce problème-là. Mm-hmm. Ça serait un vrai chef de l'État.
Mais il a fait quelque chose, le ministre de l'Intérieur, il les a déplacés.
Oui, voilà. Il a construit un mur.
Il a construit un mur. Jean-Claude Dacier et après Maître Bonnadel.
Je comprends pas que le président de la République n'ait pas pris en compte, en main, alors, ce dossier,
peut-être sauf, parce qu'il se dit que ça peut nuire à la maire de Paris.
J'allais le dire. Sauf à laisser tomber Madame Hidalgo en dessous de 4%, elle est déjà bien bas. Je ne veux pas le croire. Je veux pas le croire. Donc, c'est un problème de santé publique. On l'a dit, je ne vais pas le répéter. C'est un problème de santé publique. Je croyais qu'il y avait un ministre de la Santé, on ne l'entend pas beaucoup. La seule solution, c'est de sortir ces 200, 300, 400 malheureux. Et c'est forcé, je sais que ça ne sera pas facile, de les soigner dans un lieu fermé. Ceux qui n'ont rien à faire en France, après les avoir soignés, les renvoyer dans leur pays. Ceux qui sont binationaux, on regarde quelles sont leurs chances de réinsertion. Bref, il y a une politique d'autorité et d'efficacité à mener, et non pas celle qui consiste à les sortir de la colonne, du carrefour du crack, je ne sais pas où, ensuite les mettre au jardin des Halles, les envoyer à Pantin ou ailleurs. Enfin, franchement, mais et le président de la République, et le préfet de police, et la maire de Paris se ridiculisent dans ce dossier. C'est, honnêtement, je pèse mes mots, c'est honteux pour ce pays.
Maître Golnadel.
Moi, je souscris à ce qu'a dit le commissaire, mais je pense que la situation qu'il connaît bien depuis longtemps est dans un état d'aggravation totale. C'est pas le mur de la honte. C'est le mur du désarroi et c'est le mur de l'impuissance. On sent que l'État n'a plus la main. Et on sent aussi le désarroi de la population. Comme jamais. Il me semble que l'élément nouveau, c'est l'arrivée de migrants mineurs ou soi-disant mineurs isolés, qui sont les principaux aujourd'hui à Paris dealers de crack, quand ils ne sont pas eux-mêmes les victimes de ça. Et le fait qu'ils se maintiennent libres sur le territoire, on les voit dans les films, on les voit. Le fait que et reste pour moi une énigme de l'impuissance d'État et de cette manière de résignation. Mais les gens, ils me semblent pas résignés, ils me semblent exaspérés.
En colère.
Donc on peut prendre tous les sujets dont on parle.
Le danger, c'est que, parce que nos concitoyens, je pense, ils sont patients, extrêmement patients. Mais un jour, ils vont décider de faire eux-mêmes le nettoyage. Et c'est ça le risque. Parce qu'un jour, ils vont dire, puisque vous n'êtes pas capable de le faire, nous, on va le faire. Et ce jour-là, ça sera terrible. Monsieur. Et c'est pour ça qu'il y a en dehors de l'incompétence de l'État, il y a des fois où on se dit, c'est compliqué. Là, je m'excuse de le dire, je crois que c'est pas si compliqué que ça.
Commissaire Lebas, on entendait tout à l'heure une habitante qui disait mais les jeunes des cités vers Pompin vont s'occuper à un moment de chasser les toxicomanes. Ça va être ça ? Il y a un risque ?
Ah mais c'est plus qu'un risque. Imaginez que quand vous avez ce village de toxicomanes au crack qui prend possession d'une zone, forcément, ça fait peur à tous les riverains, y compris ceux qui seraient à même d'aller acheter du cannabis, pour prendre cet exemple-là. Moi, je connais des gens avec qui j'ai discuté, qui étaient à Stalingrad avant que ce problème-là soit déplacé. C'est des nuits entières de hurlements, d'agressions, de tentatives de viol. Enfin, je ne veux pas caricaturer le paysage. C'est une horreur totale pour les riverains. Pourquoi il faut assumer de parler de contraintes ? Il faut dire pourquoi à ceux qui nous écoutent. C'est que ces gens-là, avant que un éventuel traitement médical puisse fonctionner, ils ne sont pas en état de conscience ni de lucidité. Il existe un dispositif à Paris aujourd'hui. Un commissaire de police peut, avec un certificat médical, placer quelqu'un en hospitalisation d'office. C'est l'infirmerie psychiatrique. Que ce soit ce procédé-là ou un autre, et il faut que le législateur se penche sur le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet de législateur. C'est de donner les moyens de, un, faire de la contrainte médicale pour mettre les gens dans des structures hospitalières, parce qu'ils n'iront jamais de leur plein gré, et ensuite de faire confiance au milieu médical pour qu'ils soient pris en charge. Pour ceux qui peuvent s'en sortir, et ben, ils sont insérés. Pour ceux qui ne peuvent pas s'en sortir, personne ne va contester s'ils sont, en plus, étrangers en situation irrégulière, d'être expulsés quand ils ont commis des délits. Et je vous dis, en dehors du volet où la police peut faire largement mieux sur le volet fabricants, dealers de crack, et c'est encore très majoritairement les Maudous et donc une communauté sénégalaise qui est à la manœuvre. Vous savez, le crack, c'est malheureusement très facile. Vous achetez un peu de coke, de l'ammoniac, un réchaud, une plaque à gaz, et vous faites du crack. Et c'est ultra rentable, c'est pour ça qu'ils font du crack, parce qu'un caillou de crack est immédiatement rentabilisé, contrairement à des doses, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est malheureusement très rentable, et en plus, ça accoutume très rapidement.
Ça vaut combien
un caillou de crack, ça vaut rien du tout, ça vaut 10-15 euros, rien du tout. Et c'est des gens qui se retrouvent dans un état physique de délabrement mental et physique, qui finissent, je vous l'ai expliqué, par rester en communauté. Du coup, tout est point de fixation. La salle de shoot est un point de fixation. Les assos qui viennent autour sont des points de fixation. La ligne de métro est un point de fixation. Et on déplace ces gens-là depuis quelques années, même 15-20 ans, sur l'axe métro-ligne nord Seine-Saint-Denis, sans être capable. C'est bien la preuve que c'est un échec sur le volet pénal. Donc il faut que le législateur ait le courage de mettre de la coercition sur un volet médical pour séparer ces gens-là
donc
dans les structures hospitalières.
Des centres, mais
malheureusement, sur ces populations-là, il faut les amener de force dans une structure hospitalière. L'injonction thérapeutique, ça nécessite après la prise en charge physique.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a derrière un service qui prend.
Il faut des services qui sachent. Je suis désolé, Jean-Claude Dacier l'a dit, les enfermer et les contraindre pour ensuite leur donner une chance de s'en sortir.
Il y a des places disponibles aujourd'hui ?
Il faut les créer. C'est bien joli de créer des salles de shoot, mais à l'époque, je vous dis, moi j'ai participé aux discussions, la salle de shoot, les autorités municipales voulaient la mettre à un endroit, en limite, et c'est là où elle a été mise, de ZSP, de zone sécurité prioritaire. On crée des anomalies totales, on ne peut plus travailler dans des conditions comme ça. Il faut créer des structures hospitalières dédiées à cela.
Julien Drey ?
Non, il y a des salles de shoot sur les routes, ça, où on se dit que c'est un moyen, à un moment donné, de rattraper. Là, ça ne sert à rien, la salle de shoot. Parce que l'état physique dans lequel se trouvent ces gens-là, c'est qu'on les maintient, au contraire, on les pousse à la mort. Donc on est simplement en train d'attendre le moment où ils vont disparaître, parce que c'est comme ça que ça se passe. Le taux de mortalité, il est énorme dans ce genre de situation. Donc, à un moment donné, ce n'est pas très compliqué, y compris il y a des endroits dans Paris où il suffirait simplement de mettre un peu de personnel, on pourrait très vite travailler. Et par ailleurs, je signale qu'il y a eu une discussion avec les autorités sénégalaises, et que les autorités sénégalaises étaient d'accord pour travailler avec nous en collaboration au départ, en tout cas c'est ce qu'elles disaient. Mais ça, comme d'habitude, on voulait mettre devant la responsabilité.
Non, mais sur le fait qu'après, dans les procédures pénales, il y ait des mensonges sur l'identité, etc., à nous d'avoir les moyens, de se donner les moyens pour les identifier concrètement et que le pays d'accueil puisse reconnaître leurs ressortissants. Je vous dis, ils trichent sur la nationalité en se déclarant issus d'un pays en guerre, et là, parfois la justice n'est pas en mesure d'expulser.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va revenir sur ce féminicide abominable. Le meurtre de la jeune Chahinez au mois de mai dernier. 4 policiers sont menacés de sanctions par l'IGPN. A tout de suite.